autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, pour nous poser des questions sidérales et sidérantes sur le développement du vivant à la lumière des extraordinaires avancées de la génétique et de la génomique. Comment, à partir d'une simple cellule, à partir de quelques gènes architectes, un embryon peut-il se développer de tant de manières différentes? Quelle est l'origine de la complexité morphologique des organismes vivants? Et comment la compréhension de ces mécanismes ouvre des possibilités totalement inédites de réparer, voire de modifier notre patrimoine génétique? Mais jusqu'où? Jusqu'à imaginer des hommes génétiquement modifiés, il n'y a qu'un pas qu'avant de franchir. Nous devons d'interroger, en compagnie d'un des plus éminents spécialistes de génétique et génomique du développement, le professeur Denis Duboul, qui vient d'être nommé au Collège de France, titulaire de la nouvelle chaire internationale Évolution des génomes et développement, autour de la question jusqu'où nous entraînera la génomique du développement. Bienvenue pour le découvrir ensemble. Bonjour Denis Duboul.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous entre Genève, Lausanne et Paris. Vous êtes professeur de génétique et de génomique du développement, directeur du laboratoire de morphogénèse moléculaire à l'Université de Genève et du laboratoire de génomique du développement à l'École polytechnique de Lausanne. Avec vos équipes, vous êtes notamment à l'origine de découvertes majeures sur le rôle fondamental des gènes architectes dans le développement de l'embryon. Vous êtes internationalement reconnu comme un des meilleurs spécialistes de ce domaine en pleine émergence et qui suscite de nombreuses questions, notamment éthiques. Vous venez d'être nommé titulaire de la nouvelle chaire internationale du Collège de France, Évolution des génomes et développement. Comme vous l'avez rappelé vous-même, Denis Duboul, dans votre leçon inaugurale, vous avez consacré votre vie de recherche aux embryons, je vous cite, « embryons, créatures pleines de promesses qui remplissent ma vie depuis 40 ans. Tout part de l'embryon, et pour vous aussi, Denis Duboul, tout est parti de l'embryon, de cette curiosité-là. »
Oui, bien sûr. C'est plein de promesses parce qu'un embryon est destiné à devenir un adulte. Donc il y a la promesse du triomphe du développement, en fait. Et les embryons sont de loin la chose la plus extraordinaire que tout le monde peut contempler ce week-end. Si vous allez dans les bois alentour de Paris, vous verrez des pontes de batraciens, vous verrez cette chose extraordinaire. Vous pouvez aller deux jours de suite, vous verrez que ces petits animaux poussent, se transforment, changent. Et on se demande, mais sous quelle force, selon quel plan, comment cela est-il possible? Et c'est vraiment le...
C'est ce que vous vous êtes demandé tout jeune, face à des batraciens et des grenouilles notamment?
Non, je dois vous dire que c'est pas quelque chose qui m'a vraiment pris la tête enfant, mais c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu un peu campagnard où j'étais en contact avec beaucoup de choses de ce genre, des animaux, des ponts, des serpents, etc. Et c'est vrai que ça m'a donné un goût pour la nature et un goût pour les animaux qui n'a pas diminué depuis.
Aujourd'hui, avec les avancées de la génétique, de la génomique, on pourrait dire quoi? Que tout a changé, qu'on comprend un peu mieux ces mécanismes d'évolution, Denis Duboul?
Oui, alors c'est vrai que depuis, je dirais, une trentaine d'années, on a réussi maintenant à mettre des mécanismes moléculaires sur ces observations qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas comment un embryon pouvait tout d'un coup faire qu'une patte apparaisse en haut, une patte apparaisse en bas. Et aujourd'hui, on commence à comprendre quel est le plan qui est responsable de cet état de fait. Alors on comprend comment ce plan est établi. Évidemment, on ne comprend pas vraiment d'où il sort, parce qu'il sort depuis, il a été construit en 400-500 millions d'années, depuis le Cambrien. Hein. Donc c'est quelque chose qui s'est établi de façon très progressive. Mais on commence à comprendre, on se dit voilà, si tel gène est activé à ce moment-là, en réponse à tel autre gène, et bien là on a une probabilité que cette patte sorte. Donc le jeu est changé. Parce qu'on arrive maintenant à voir l'intérieur des choses, plutôt que d'avoir un microscope et puis de se dire « Oh là là, ça se développe, c'est formidable », on commence à comprendre l'intérieur. On se dit « Oui, c'est formidable parce qu'à ce moment-là, ce gène s'enclenche ». Donc c'est vrai que ça a changé notre vue du développement.
Autour de la question jusqu'où nous entraînera justement la génomique du développement, je propose de commencer notre réflexion, Denis Duboul, au Collège de France, où vos cours, je le rappelle, sont accessibles à tous sur Internet. On retrouve Alain Prochian, l'administrateur du Collège, qui vous a accueilli pour votre leçon inaugurale, morceau choisi.
Mesdames et messieurs, monsieur l'ambassadeur, mes chers collègues et amis, c'est un très très grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Denis Duboul sur cette chaire internationale, l'évolution des génomes et du développement. Alors, je serai bref, Denis Dubul souhaite que je le sois. Il doit cependant être compris de tous que Denis Dubul appartient, sans le moindre doute, au groupe très restreint des savants qui, au cours des 30 dernières années, ont changé notre vision du développement et de l'évolution des métazoaires. Il n'est pas donné à tout le monde de faire bouger les lignes. Jamais notre nouveau professeur n'aurait, il me semble, la naïveté de croire, faisant en cela quelque peu exception parmi nos contemporains, que les expériences les plus récentes, les technologies les plus fracassantes, chaque année en a son lot, rendent obsolètes les apports de ceux qui nous ont précédés. C'est grâce à cette érudition qui participe de plein droit à la recherche scientifique que Denis Dubul peut s'attaquer aux questions les plus ardues en les soumettant à un examen épistémologique critique. Ses réflexions sur le concept d'evo-devo illustrent assez bien ce trait qui me semble important de sa démarche et de sa personnalité. J'arrête là, cher Denis, mais tu dois savoir que c'est un plaisir sans ombre, un honneur aussi, que de t'accueillir ce soir et de t'ouvrir les portes d'une maison que je te prie de considérer désormais comme la tienne.
C'est votre maison, le Collège de France, Denis Dubul. Vous avez vu sourire hein, devant cet hommage d'un approchant.
Écoutez,
vous n'êtes pas
touche...
trop pour les violons.
Non, écoutez, je suis touché. J'ai été touché par ce hommage, surtout de la part de notre administrateur qui lui-même est un scientifique de haute volée. Donc c'est vrai que c'est touchant. Mais bon, cela dit, voilà, maintenant on est passé à autre chose.
Et c'est un peu votre maison, ce Collège de France, qui est vraiment un lieu de savoir, un lieu de recherche et un lieu de transmission aussi.
Disons que c'est un lieu que j'affectionne particulièrement, peut-être parce que aucune structure de ce genre n'existe dans les endroits où je travaille, où j'ai travaillé. C'est un endroit totalement
ni
absurde.
Ni en Suisse, ni aux États-Unis.
Non, nulle part. C'est un endroit complètement à part où les gens peuvent venir simplement s'asseoir, écouter, se renseigner dans des domaines qui sont aussi divers que l'histoire de l'islam, que l'histoire de la Turquie. J'écoutais l'autre jour en passant un cours là-dessus, la littérature, sur l'anthropologie, etc. C'est un lieu extraordinaire de connaissances ouverte, où il y a une liberté de parole. C'est un peu l'héritage des Lumières, finalement, bien que le collège ait commencé avant, dans le fond. Et c'est un endroit où je me sens, je dois dire, particulièrement bien, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas de contraintes, que je peux parler avec des gens...
Et de toutes les sciences, hein, finalement,
les sciences,
en interdisciplinarité.
Voilà, de toutes les sciences.
Alain Prochiant, l'administrateur du collège, disait dans son introduction que vous avez fait bouger les lignes. Vous avez, Denis Dubul, participé véritablement à cette révolution génétique, génomique, en découvrant avec votre équipe l'importance des gènes architectes dans l'organisation de l'embryon. Alors, on ne va peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais ces gènes architectes, ils agissent à la fois dans le temps et dans l'espace, c'est ça?
Oui, ce sont des gènes, alors c'est un peu compliqué à comprendre en fait, mais si vous voulez, ce sont des gènes qui sont responsables de ce que l'on pourrait appeler le gros œuvre en fait, la mise au point du plan de développement de base. Quand vous développez un embryon, ce sont des choses qui vont se construire, mais il faut partir de quelque part. Il faut avoir des informations qui vous disent là, il y aura la tête, là, il y aura la queue, là, il va y avoir le côté avant-arrière, le bas, le haut, le gauche, le droit. Vous voyez, ça, voilà. Et ces gènes architectes sont des gènes qui font partie du peu de gènes qui sont responsables pour fixer ce plan de base, un peu comme un plan de construction où voilà, quelqu'un dirait voilà, ici on va mettre le premier étage, voilà. Puis ensuite sur ces gènes architectes vont venir d'autres gènes qui vont construire les sanitaires, le chauffage, etc.
Mais à l'intérieur gènes, de l'organisme vivant.
Voilà, mais ces gènes sont particulièrement intéressants, enfin, à mon avis, je ne vais pas vous dire le contraire, mais sont particulièrement intéressants parce que ce sont des gènes qui interviennent assez tôt et qui interviennent de façon massive, qui ont une fonction très importante, et c'est là le point le plus important peut-être, qui interviennent d'une façon similaire chez tous les animaux. Alors, vous allez me dire, mais attendez, une crevette, ça n'a pas le même plan corporel
qu'un être humain. Mais pourtant, il y a ces mêmes gènes architectes
voilà,
au départ.
En fait, si on remonte au plan de base, au premier tracé sur la feuille, si vous voulez, eh bien, ces plans sont très similaires. Et c'est ça, disons, une des observations les plus intéressantes de ces 30 dernières années, puisque, en fait, ça nous a fait regarder le problème du développement avec une lunette totalement différente. C'est ce qu'on appelle un changement de paradigme.
C'est-à-dire qu'il y a à la base les mêmes...
Voilà.
On peut parler de lettres, d'alphabet, de gènes, chez tous les êtres
Exactement.
Vivants, en germe, enfin, pour faire germer
Exactement.
La suite.
Exactement. Et donc, il y a 30 ans, c'était très confortable. On se disait, mais pourquoi une crevette est différente d'un être humain? Ben, c'est simple, parce que la crevette a des gènes de crevette. Et puis nous, on a des gènes d'être humain, et donc on est différent. Aujourd'hui, on a un problème. C'est-à-dire, on se dit, ben non, la crevette, elle a les mêmes gènes que nous. Donc, il doit y avoir une interprétation différente de ces plans, plus qu'une différence qui est créée par les matériaux différents. Mais dans le fond, on peut continuer avec la métaphore de construction. C'est pareil si vous construisez une petite maison, un petit pavillon de campagne.
C'est les mêmes briques au départ.
Et puis un immeuble, c'est les mêmes briques, c'est les mêmes, le même verre pour les fenêtres, les mêmes tuiles. Vous voyez, c'est simplement la façon dont on va les agencer.
Alors comment tout ça, ça s'exprime? Parce qu'il y a d'autres révolutions en cours, notamment celle dont on parle beaucoup, de l'épigénétique, de l'expression de ces gènes. À ce sujet, une nouvelle question pour vous, elle est soulevée par le professeur Abdoulaye Baniré Diallo. Il est d'origine guinéenne, il est professeur et directeur du laboratoire de bioinformatique à l'Université du Québec à Montréal. C'est aussi l'un des lauréats du Next Einstein Forum qui récompensait à Kigali ce mois-ci au Rwanda, où je l'ai rencontré, les plus éminents scientifiques et les plus éclairants scientifiques panafricains du continent. Voici sa question, elle est pour vous.
Pendant longtemps, tout le monde a cru que le bagage de l'hérédité tenait sur la génétique, le génome en soi, et on se rend rapidement compte que ce n'est pas seulement ça qui est transmis aux générations futures, et une partie de l'épigénétique des parents est transmise, et de plus en plus on se rend compte que même une partie de la flore microbienne est transmise au cours des processus de grossesse aux enfants. Donc pour quelqu'un qui travaille en épigénétique, comment il voit l'intégration de toutes ces données épigénomiques et épigénétiques avec les avancées qui ont déjà été faites au niveau génétique? Parce que est-ce qu'il n'y aurait pas une rupture ou une cassure au terme de raisonnement et d'interprétation des résultats?
Nouvelle rupture, nouvelle cassure avec l'épigénétique.
Oui, alors il y a plusieurs questions, c'est très intéressant. Oui. C'est évidemment un problème qui est extrêmement intéressant. Il y a plusieurs questions dans ce que disait ce collègue. D'abord, laissez-moi éliminer la question des microbiotes de la flore intestinale, parce que c'est pas mon domaine. Et puis effectivement, ça peut se transmettre d'une mère. Bon. Alors maintenant, il y a le problème de la transmission épigénétique. Pour faire simple, notre génome, c'est le même dans une cellule du foie ou dans une cellule du rein. C'est le même génome que nous avons dans ces cellules. Pourtant, les cellules sont différentes.
Pour donner le foie ou pour donner le rein.
Voilà, exactement. Donc, comment se fait-il que ces cellules soient différentes? Parce qu'elles mettent en œuvre des programmes génétiques différents. Et ces programmes génétiques différents, on les voit par l'intermédiaire de l'épigénétique. C'est-à-dire que ces cellules vont utiliser des parties du génome différents, de façon différente. Et cela va laisser des marques qu'on appelle des marques épigénétiques. Alors maintenant, le gros problème, évidemment, qui est un problème qui dépasse de loin le problème scientifique, qui est presque un problème philosophique, puisqu'il fait appel, on l'a bien entendu, à la transmission,
qu'est-ce
aux enfants,
se transmet,
etc.
Comment...
Voilà, donc c'est presque biblique. Et si je me comporte bien, est-ce que mes enfants vont en profiter, etc. Bon, ça, c'est un problème qui est différent. Et je dois dire, alors peut-être pas entièrement contrairement à ce que disait ce collègue, mais de façon peut-être plus modérée, je dirais que pour l'instant, il n'y a guère d'évidence chez les mammifères, chez les humains en tout cas, d'une transmission épigénétique qui aurait passé, qui serait passé au travers de plusieurs générations. Ce que je veux dire par là...
C'est-à-dire que les transformations, elles sont pour l'individu, c'est-à-dire que l'épigénétique, c'est une expression de certains gènes pour nous,
voilà, ce que
vivants.
Je veux dire par là, c'est que si une mère qui est enceinte ressent un très gros stress, et il y a eu une étude très intéressante sur la famine d'Amsterdam dans les années, à la fin de la guerre, le blocus, etc. Bon, si la mère a subi un stress très important, il est vraisemblable que l'embryon qu'elle porte, le fœtus qu'elle porte, va recevoir une partie de ce stress comme marque épigénétique. Donc cet embryon qui va recevoir peut-être des hormones différentes, qui va voir des produits chimiques passer chez lui, va avoir une réaction, et donc cet embryon sera différent, aura des marques épigénétiques différentes de celles qu'un embryon aurait, qui n'aurait pas, qui ne serait
donc
pas passé.
Donc la mère lui aura transmis et ses gènes et son stress
exactement.
Ou ses souffrances.
Exactement. Le vrai problème, c'est de savoir ce qui va se passer quand cet embryon aura lui-même des enfants. C'est-à-dire, est-ce que ces problèmes, est-ce que ces différences épigénétiques, ces marques, seront transmises à une génération successive, donc en F2, F3, F4, F5? Alors, c'est quelque chose qui existe chez les plantes, où là, on sait qu'il y a des transmissions épigénétiques assez stables. Mais je dois dire que, n'étant pas un vrai expert dans ce domaine, mais je dois dire que je pense, en accord avec mes collègues qui sont eux des experts en épigénétique, je ne pense pas actuellement qu'il y ait des démonstrations patentes chez les humains d'une transmission d'un caractère épigénétique.
D'une génération à l'autre, sur plusieurs générations.
C'est un problème qui, évidemment, est très, très, d'une façon, un problème sociétal qui est très pénétrant, parce que les gens se disent, mais alors, si on règle notre vie, si on arrive à adapter notre vie avec le bio, avec le truc, le machin...
On va transmettre que du bien à nos enfants et ensuite à nos petits-enfants.
Exactement. Par contre, si je me conduis mal, si j'ai du stress, si je ne suis pas zen, si je mange des trucs, etc.
On va en souffrir pendant cette génération.
Donc on a une tendance innée, je dirais, à accepter ce principe de l'épigénétique, mais je ne suis pas sûr que scientifiquement il soit totalement démontré.
Autour de la question jusqu'où nous entraînera la génomique du développement, en tout cas à ne pas développer trop d'idées fausses, ou à peut-être à moins se raconter d'histoires, cette discipline qu'on appelle aussi Evo-Devo, hein, évolution du développement, je vous propose une jolie parodie musicale de l'Evo-Devo qui s'inspire du tube Despacio, revisité sur le blog Acapella Science, traduction simultanée sur notre page Facebook.
One cell divide and decide on a thousand fates. Did you ever figure how they know?
Be mad.
We are built of modules combined in a planned out way. Each new piece must be told where to go. Oh, now there's a science helping us to understand how our cells encode this architectural plan, signaling each other with genetic tools, oh. Oh yeah, wow. Phenotype the interface for mouse and man, genotype the files and the subprograms. What then are the switches, circuit boards, and root code? Evo-Devo. Looking at the logic in the ways that we grow, every gene directed by a signal key code, proteins that can activate and enhance our veto. Evo-Devo. The signals are controlled by other genes that signal, calculating in a network labyrinth, where the heart and liver and the hands and feet go. They cascade like a domino, hey. Like you and I, Drosophila, hey. The path that makes us optical, hey. Was laid a long, long time ago, hey. Back before we blew up the Cambrian, like a bomb bomb. Now my eye protein can make you see out of your bomb bomb. And Hedgehog and its relatives, hey. Like Indian and Sonic, hey. Set up in a gradient on segments embryonic, hey. Split four brains and asymmetric parts depend upon it, hey. Flipping on genetic switches and logic from Devo to Evo.
Despacio, non, Evo-Devo, qui mène à tout sur RFI et même à la parodie visible sur le blog Acapella Science. Le lien est bien sûr sur notre page. Je vous ai même vu danser Denis Dubout, vous la connaissez bien cette chanson?
Oui, je la connais bien parce que je l'ai reçue des centaines de fois par des collègues, mais je dois dire que je trouve ça très encourageant. J'ai l'impression, ça donne plein d'espoir sur la capacité de ces jeunes à faire des trucs formidables.
À partir de l'Evo-Devo. Alors pour continuer de comprendre et d'avancer autour de la question jusqu'où nous entraînera la génomique du développement et l'épigénétique que nous venons d'aborder. Nouvelle question pour vous, Denis Dubout, elle est soulevée par Caroline Tourbe du mensuel Science et Vie.
Plusieurs études sur l'animal, notamment sur la souris, mais aussi d'autres sur les humains, semblent montrer que les câlins, faire des câlins à son enfant, aurait une influence sur son ADN et plus précisément sur l'épigénétique de son ADN, c'est-à-dire toutes les molécules qui entourent son ADN. Est-ce que c'est quelque chose qui est étudié, qui vous semble réel chez l'humain ou encore très hypothétique ?
Qu'en pensez-vous, Denis Dubout ?
Alors, il faudrait d'abord savoir si mes enfants m'écoutent avant que je vous donne une réponse. Mais...
Est-ce que vous les avez câlinés d'abord ?
Oui. Bon. Écoutez, je pense que lorsque l'on câline un enfant, cet enfant va réagir à ses câlins. Il va y avoir une réaction sensorielle, de plaisir, etc. Il est évident que cette réaction va induire des changements physiologiques. Donc, il est évident qu'il va y avoir des modifications au niveau génétique. En clair, vous allez activer certains gènes, vous allez réprimer d'autres gènes. Donc tout ça, c'est des mécanismes. De la même façon, quand vous allez avoir traverser la rue ou quelque chose qui vous fait plaisir, vous écoutez cette chanson, vous allez réagir à cela. Alors effectivement, cela va induire probablement quelques changements épigénétiques. Mais la question est toujours la même, celle à laquelle on essaie de répondre avant. C'est, est-ce que ces changements épigénétiques seront
pérenne.
Maintenu, pérenne, transmis. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons évolué un système pour être sûr d'effacer complètement ces changements épigénétiques. Parce que autrement, à votre naissance, vous auriez déjà accumulé toutes les terreurs, toutes les peurs que vos parents, vos grands-parents auraient accumulées. Et c'est pour ça que chaque génération, il y a un grand nettoyage. Mmh. C'est ce qu'on appelle la reprogrammation. C'est un mécanisme qui a été découvert relativement récemment, qui a donné lieu à des prix Nobel, etc. C'est un grand nettoyage. Quand vous vous reproduisez, que vous faites un nouvel enfant, eh bien, toutes ces marques sont effacées, on enlève tout et on remet tout à neuf avec de nouvelles marques qui arrivent aux endroits où elles devraient l'être. Alors maintenant, parfois, encore une fois, on n'enlève peut-être pas tout de façon très complète. Peut-être peut-il rester quelques marques que l'on peut transmettre encore pour une génération. Mais en règle générale, c'est un système qui a évolué dans le but de ne pas garder ses marques, autrement ce serait invivable.
Donc c'est vraiment une question aussi enfin, d'évolution, évidemment, mais ça ne cesse d'évoluer. Enfin, l'homme, au fond, ne cesse d'évoluer, est-ce qu'on peut le dire comme ça aussi?
Oui, alors bien sûr, l'homme ne cesse d'évoluer dans le sens où on ne cesse d'accumuler des changements dans notre ADN. Alors maintenant, est-ce que c'est une définition qui est suffisante pour parler d'évolution, ou bien est-ce que pour parler d'évolution, il faut qu'on attende le moment où l'homme va passer à un état de transformation avec une nouvelle structure, avec une nouvelle capacité? Cela dépend évidemment de la façon dont vous qualifiez le mot évolution. Si vous parlez à des généticiens des populations, peut-être vous diront-ils qu'on est en constante évolution, parce qu'on accumule, de plus en plus. Si vous parlez à des gens plutôt de l'évo-dévo, ils vous diront, tant que les hommes n'auront pas des pattes au lieu des yeux, il n'y aura pas d'évolution.
Et on y viendra bien sûr au cours de cette émission. Pourrons-nous, nous aussi, changer un peu la donne de l'évolution grâce à tous ces outils génétiques et génomiques? On va y venir, mais avant, il y a une question d'un de nos auditeurs au Cameroun qui s'appelle Adrien, qui nous a écrit sur les réseaux sociaux et qui nous demande, lui, si un couple de personnes, tous les deux albinos, pourrait donner naissance à un enfant noir de peau. Est-ce qu'un généticien peut répondre à ça, Denis Duboul?
Alors écoutez, vous me posez une question qui est extrêmement difficile parce que je ne connais pas la nature, la raison pour laquelle ces gens posent la question. Si effectivement c'est un couple d'albinos qui a un enfant qui n'est pas albinos, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait se poser cette question. N'est-ce pas? Donc j'hésite toujours à répondre à ce genre de questions.
D'accord, il ne faut pas être trop catégorique, mais c'est génétique.
Il ne faut pas être trop catégorique.
Le fait d'être albinos.
C'est génétique, bien sûr. Et je pense, je ne suis pas absolument sûr, mais je pense que si les deux parents sont albinos, en fait, les enfants, en principe, devraient être albinos.
Parce que quand on parle des gènes, évidemment, il y a la question des gènes récessifs. Enfin, dans la transmission, vous étudiez tout ça, quoi, gène par gène, ou comment
Oui, alors disons que aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu l'avantage que nous ont procuré les technologies de la génomique plutôt que de la génétique, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder un gène par un gène, on a quand même plus de 20 000, donc c'est beaucoup de travail. On peut aujourd'hui, grâce à des approches qu'on appelle des approches à haut débit, travailler avec un génome un peu comme on travaillait avec un gène il y a 30 ans. C'est-à-dire de considérer l'ensemble de notre matériel génétique comme une grosse unité d'information plutôt que de considérer un gène comme une unité d'information. Ça, c'est vraiment une révolution technologique qui date de la fin du séquençage du génome humain. En fait, c'est là qu'a commencé vraiment cette ère de la génomique. Alors c'est vrai que ça demande beaucoup de fonds, c'est vrai que ça demande beaucoup de puissance de calcul, de puissance de stockage de données, ça prend beaucoup de place, etc. Mais c'est la façon dont les gens travaillent aujourd'hui dans ce domaine de l'évolution des génomes.
Et qui a vraiment révolutionné votre approche, en tout cas, entre le début de vos recherches sur l'évolution, le développement.
Oui, ça a beaucoup aujourd'hui changé. Ça a changé de façon vraiment drastique, où à l'époque, on s'intéressait au fonctionnement d'un gène particulier. Un peu comme si on s'intéresse au fonctionnement, au déplacement d'une personne particulière à Paris. Et puis aujourd'hui, en fait, on a les outils pour regarder tout le monde, tous les gens en même temps, où ils se déplacent, où ils vont, comment ils interagissent. C'est un peu une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais en fait qui explique bien l'augmentation du degré de complexité aujourd'hui des études dans la génomique, qui demandent en fait des profils de chercheurs, qui sont d'ailleurs un peu différents, qui sont des chercheurs formés à la bioinformatique, à la programmation, Alors que c'est vrai que la vieille école dont je fais partie n'avait pas ce souci-là.
Oui, devant une telle complexité, pour comprendre cette complexité, ça ouvre de nouvelles questions, il faut d'autres compétences aussi.
Voilà, il faut surtout jamais hésiter à dire qu'on n'arrive pas à le faire soi-même et d'essayer d'engager les gens qui sont compétents pour le faire.
Je propose de nous arrêter quelques instants sur un ADN particulier, celui de Philippe Catherine sur RFI.
Ta maman, on dirait tes mots, un peu ton papa, un peu ton maman, un peu ta papa, si tu vois ce que je vois. On dirait les rois mages, vers leur étoile, vers leur étoile, vers les étoiles. Sa maman, on dirait ses mots, un peu son papa, un peu son maman, un peu sa papa, si tu vois ce que je vois.
L'ADN de Philippe Catherine sur RFI, ça vous parle, Denis Dubourg?
Oh, j'aime beaucoup Philippe Catherine. Je trouve, évidemment, ton ADN, mon ADN, ça pose la question...
Ton ADN dans mon ADN. Hein.
Voilà, ça pose la question de la propriété de l'ADN. C'est une question extrêmement intéressante. Mais oui, j'aime beaucoup Philippe Catherine.
On n'a pas le temps d'y répondre tout de suite à cette question, mais on peut aussi vous proposer d'autres ADN, notamment celui de Dali.
Vous écoutez RFI autour de la question... Caroline Nachowski.
Il y a dans ce flacon une substance qui est plus précieuse que l'or, les diamants ou le pétrole du monde réuni. Cette substance, les Anglais l'appellent le DNA. Les Français, l'ADN. Et les chimistes, d'un nom un peu barbare, l'acide désoxyribonucléique.
Je vais dire, en catalan, de una manera muy anticuada, la estructura. Estructura molecular de l'ácido desoxirribonucleico.
L'ADN de Dali, Denis Duboul. L'ADN qui, quand même, nous a fait entrevoir un autre monde. On est aujourd'hui dans un autre monde, maintenant que les scientifiques comme vous peuvent travailler sur l'ADN.
Oui, bien sûr. C'était une découverte absolument essentielle, une des plus grandes découvertes du siècle passé, en fait.
Mais est-ce qu'on n'en a pas trop attendu? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, toutes les portes et toutes les fenêtres s'ouvrent.
Oui,
mais
alors
même
l'ADN,
temps,
l'ADN il est là. Après, les problèmes qui sont autour de l'ADN, c'est nous qui les créons. Alors, le problème que vous soulevez, c'est celui du déterminisme. C'est qu'effectivement, beaucoup de gens pensent que l'ADN est la cause proximale, serait la raison pour nos comportements. Alors ça, c'est dû à des faits absolument réels. Quand vous regardez des vrais jumeaux, eh bien, ils partagent leur ADN. Et nul ne peut dire que la ressemblance est totalement, n'est pas extraordinaire, c'est quelque chose de totalement irréel. Donc effectivement, il y a un grand déterminisme génétique qui est lié à l'ADN. Maintenant, le problème, c'est de savoir si ce déterminisme peut être réduit en petits morceaux de déterminisme. C'est-à-dire, si l'ADN, des ADN identiques au départ, donne des gens qui se ressemblent beaucoup à la fin, ou bien si chaque petit morceau de cette personne est défini par chaque petit morceau de l'ADN. Ce sont des questions qui sont différentes. C'est la question du déterminisme de l'ADN. Et aujourd'hui, on entend des sottises invraisemblables, des responsables politiques qui disent « c'est dans l'ADN de mon parti, c'est dans l'ADN de mon entreprise, c'est dans l'ADN, etc. »
Il faut sortir ces mots-là de vocabulaire.
Mais
hein.
Ce sont des sottises, en fait, parce que l'ADN, justement, ce n'est pas cela. Ce n'est pas un ensemble de causes qui fabrique un ensemble d'effets. C'est une grande cause qui fabrique, à la fin du processus du développement, un grand effet. Et entre les deux, on ne comprend pas quelles sont les relations de causalité.
Et c'est ce que vous étudiez, ce processus du développement.
Alors, c'est ce qu'étudient beaucoup de gens qui sont intéressés, nous le sommes bien sûr, dans les, comment les gènes interagissent entre eux, est-ce que ce sont des relations directes, mais en fait, c'est jamais le cas, ce sont des réseaux très complexes qui font que telle protéine va réguler tel machin qui va aller chez truc, etc. Et puis à la fin, il va y avoir souvent ce qu'on appelle une propriété émergente, donc quelque chose qui va sortir, mais on ne sait pas vraiment d'où elle sort. On sait que si on touche chez gènes, elle ne sortira pas, mais on ne sait pas vraiment d'où elle sort. Donc, c'est des mécanismes qui sont extrêmement compliqués. Et c'est pour cela que quand les gens imaginent que l'on va pouvoir modifier des petits morceaux particuliers de l'être humain, ces fameux bébés à la carte, on va faire un bébé un peu plus grand, un peu plus petit, etc. Ce sont des sottises parce que...
On ne peut pas faire ça, c'est beaucoup plus complexe que ça.
Ce sera extrêmement complexe d'arriver à faire ce genre de modifications et à l'heure actuelle, non seulement nous ne savons pas les faire, mais nous n'avons même pas d'idée de comment nous pourrions les faire.
Ça me rassure. Autour de la question, jusqu'où nous entraînera la génomie du développement, en votre compagnie, donc Denis Diboule, et si la génomique nous permettait de remonter aussi aux origines du vivant, aux tout premiers organismes, les microbes, les bactéries. Des chercheurs du laboratoire de biométrie évolutive de l'université Claude Bernard à Lyon ont mis au point un nouvel outil pour dater cet arbre du vivant. Je propose d'écouter le chercheur Vincent Daubin du CNRS, signataire dans la revue Nature Ecology and Evolution de cet article, comment reconstituer l'histoire du vivant en l'absence de fossiles, notre reporter Charlie Dupiot l'a joint par téléphone.
Souvent, on voit les génomes comme des livres de recettes pour faire fonctionner un organisme. Mais en fait, c'est des livres de recettes qui sont tout raturés, dans lesquels il y a plein d'annotations et puis il y a plein d'emprunts, en particulier chez les bactéries. Il y a des recettes qui ont été empruntées à d'autres organismes. C'est ça qu'on a utilisé, en fait. Si vous voulez, quand on trouve un gène dans une bactérie et puis qu'on arrive à connaître son origine, eh bien ça donne une information temporelle sur la date à laquelle cet organisme s'est diversifié par rapport à l'organisme à qui il a emprunté le gène ou la recette. Ces transferts de gènes, ce sont des informations en elles-mêmes de date. Ça veut dire que le donneur était déjà là au moment où le receveur du gène lui a emprunté son gène. Ce qu'on voit, en fait, c'est des connexions dans l'arbre du vivant. Donc on peut dire que deux groupes étaient contemporains. On pense qu'on pourra documenter des grands groupes d'organismes qui sont éteints aujourd'hui, qui ont pu contribuer au génome actuel via les gènes qu'ils ont donnés. On peut reconstruire aussi des liens écologiques entre les organismes sur la base des transferts, parce que le transfert, ça suppose que deux organismes sont en contact pour qu'ils puissent transférer leurs gènes. Donc il y a vraiment plein de choses à faire avec ces méthodes, en plus de la datation qui est évidemment très très intéressante pour tous ces organismes microbiens pour lesquels on n'a pas du tout d'informations fossiles. Et donc, aucune information date, ou très très peu, pour cette grande grande période de l'évolution de la vie.
Vous voulez réagir à cet éclairage, Denis Diboule, sur le fait que les gènes pourraient permettre de dater
Oui, non, c'est un travail extrêmement intéressant. C'est un travail qui, comme l'a dit ce collègue, évidemment, d'abord, premièrement, ça nous fait réaliser que les animaux tels qu'on les conçoit généralement, les eucaryotes, ce qu'on voit, ce qui bouge, nous, c'est une partie infime du monde vivant et qu'en fait, on est submergé par des bactéries, par des procaryotes. Donc
Des microbes dont on ne sait rien.
Exactement, des archéas. Et ces bactéries, on a beaucoup de peine à retracer leur histoire puisqu'elles ne laissent pas de traces. Et c'est une méthode, en utilisant ce transfert de gènes qu'ont développé ces laboratoires, qui est une méthode extrêmement intelligente, qui permet de commencer à avoir une idée de l'évolution de toute cette partie du monde vivant qu'on a parfois tendance à ignorer, mais qui évidemment est bien plus nombreuse.
Et qui est principale et bien plus nombreuse que nous.
La deuxième chose qui m'a fait tiquer, alors qui m'a beaucoup intéressé, c'est le genre qui donne, il dit le receveur et le donneur, et donc il donne un genre masculin aux bactéries. Et j'espère qu'il n'y aura pas des suites à cette interview.
Là, on sent bien le côté malicieux du chercheur que vous êtes, Denis Duboul. On a parlé des origines de la vie, on a parlé aussi du fait que la génétique, la génomique pourrait nous permettre de transformer le vivant. Et l'on parle aussi beaucoup aujourd'hui d'un outil qui s'appelle CRISPR-Cas9, on l'a appelé le couteau suisse de la génétique, qui permettrait de manipuler précisément le vivant et qui soulève d'immenses questions. Je sais que vous ne les refusez pas, ces questions, Denis Duboul. Écoutez celle que vous pose à ce sujet un jeune chercheur en biologie du développement, qui est aussi blogueur de science, il s'appelle Adrien Demille.
À propos des outils qui sont disponibles de nos jours en génétique, en biologie moléculaire, et qui sont applicables en EvoDevo, il y a cet outil CRISPR qui nous permet, depuis peu de temps, d'imposer des modifications génétiques, celles que l'on souhaite, à des organismes, alors que la stratégie qui prévalait avant, c'était d'exposer les organismes à des mutagènes et de sélectionner pour les mutations que l'on souhaitait. Maintenant, on a la possibilité vraiment d'imposer le changement que l'on veut, et ça a tout un tas d'applications en EvoDevo, ça change complètement les stratégies. Et puis ça pose un petit peu aussi la question de l'évolution, au sens où maintenant on n'est plus obligé simplement d'attendre et de sélectionner les mutations, mais on peut les provoquer. Et avec une grande précision et parfois sur des grandes longueurs de séquences ADN. Donc est-ce qu'on ne peut pas avoir une influence sur notre propre évolution, puisqu'on a la possibilité de modifier notre propre génome ?
Votre réponse, Denis Duboul, sera-t-on capable de modifier notre propre génome ?
Ah oui, alors il y a beaucoup de questions, simplement une petite question technique. On savait déjà faire des modifications ciblées de l'ADN avant l'émergence du CRISPR-Cas9. Simplement, cette technologie permet de faire tout mieux, tout plus vite, plus précisément.
Faire du copier-coller en gros.
Oui, mais alors c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, donc c'est vraiment formidable. Mais on savait déjà le faire avant, c'est pas quelque chose qui est totalement neuf. Alors maintenant... bien sûr, introduire des changements par le système de CRISPR-Cas9, c'est pratiquement illimité. Je dirais, ce qui maintenant limite l'expérience, c'est la capacité du chercheur à trouver la bonne question. C'est un transfert de responsabilité, ce qui en fait n'est pas...
Le chercheur peut faire énormément de choses ici.
Le chercheur était limité par les outils techniques dont il disposait. Donc la question qu'il posait était en fait bornée par la technologie qui était à disposition. C'était assez confortable dans le fond, parce qu'on pouvait se dire « Ouais bon, j'ai pas fait ça correctement, mais c'est parce que je peux pas le faire correctement. Bon. » Aujourd'hui, avec ces outils CRISPR-Cas9, ça met beaucoup de pression sur les chercheurs, parce que pratiquement tout est possible. Donc maintenant, le problème ne se trouve plus dans comment je vais faire cette expérience. Le problème, c'est quelle est la bonne expérience à faire.
Et quelles conséquences cela aura aussi, quels impacts,
hein,
ça pose des questions éthiques, évidemment.
Quand j'entends ce jeune chercheur, c'est extrêmement intéressant de la question qu'il pose, à savoir si l'on peut toucher des grands morceaux, est-ce que l'on va pouvoir commencer à influer sur l'évolution d'un... Et ma réponse à cela est relativement catégorique, et je dirais non. Le CRISPR-Cas9 va nous permettre de faire énormément de choses, notamment en médecine, bien sûr, soigner, etc. Bon, je passe là-dessus, mais énormément de choses. Mais cela restera toujours au sein d'une structure d'espèce. Vous allez pouvoir enlever un gros morceau chez la souris, ce sera une souris bizarre, mais une souris. Vous allez pouvoir inverser, dupliquer, rajouter, enlever, ce seront des souris bizarres, mais toujours des souris. Et pour passer d'une souris à autre chose... Il faudra autre chose que le CRISPR-Cas9. Il faudra vraisemblablement, premièrement, comprendre la nature profonde du programme. Ensuite, voir s'il y a des solutions alternatives à ce programme. Et ensuite, les implémenter. C'est-à-dire faire de la biologie synthétique et fabriquer,
créer du vivant, fabriquer du vivant.
Des nouveaux chromosomes qui auront été produits par une intelligence en fonction de ce que nous aurons compris sur nos chromosomes actuels. Je pense que c'est la seule façon pour faire vraiment passer dans une spéciation. Là, je ne parle pas de faire un petit peu de polishing,
un petit peu de
modification sur une souris qui aurait des pattes un peu plus longues ou un museau un peu plus court. Non. Là, je parle vraiment de transformer, d'aller vers une espèce nouvelle, que ce soit une espèce de souris, une espèce d'oiseau ou un homo novus, un homme nouveau.
Est-ce que ça vous fait peur, Denis Dubois ?
Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, ce qui me fait très peur, c'est l'obscurantisme. Ce qui me fait très peur, c'est les gens qui refusent de parler de ça en se réfugiant derrière des croyances. Alors ça me fait une peur bleue. Mais peur de la science, non. Et je dois dire en plus, je suis très étonné de la peur que les gens ont vis-à-vis des sciences de la vie, alors qu'ils n'ont généralement pas peur du nucléaire, qui a quand même fait ses preuves, de la chimie, qui est en train de faire ses preuves. Quand même, il faut se le rappeler, hein. Ces gens-là, ben non, finalement, quand vous êtes chimiste ou physicien nucléaire, eh ben vous ne bricolez pas, vous n'êtes pas un apprenti sorcier. Quand vous êtes un biologiste qui travaille avec l'embryon et les modifications, vous êtes un apprenti sorcier.
Et moi, vous pouvez faire l'évolution, c'est une croyance. Alors, do the evolution, on écoute Pearl Jam et on y revient. Do the evolution, Denis Dubout, je vous ai entendu réagir, c'est du lourd qu'on vous envoie dans les oreilles.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est un peu plagié de Sex Pistols.
Bon, il faudra qu'on vérifie ça. Nous sommes donc en votre compagnie et nous demandons jusqu'où nous entraînera la génomique avec tout de suite une nouvelle question pour vous, posée par la biologiste Marie-Christine Morel, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Je voudrais savoir ce que pense Denis Debout de la différence entre l'homme augmenté et l'homme modifié. Parce que je pense que sur le plan de la génétique, c'est une différence fondamentale, et sur le plan éthique, une différence fondamentale. L'avenir de l'homme augmenté et de l'homme modifié n'est pas du tout le même, et j'aimerais bien avoir son avis sur cette question.
Quelle différence, entre l'homme augmenté et l'homme modifié génétiquement ?
Alors, cette collègue a parfaitement raison, évidemment. Elle touche un point central. Dans la culture des mouvements transhumanistes, généralement, on fait référence à l'homme augmenté comme étant un homme assisté par des outils technologiques qui sont en train de se développer. Alors, on parle beaucoup des nanotechnologies sans vraiment savoir ce que c'est, des macro-trucs, des capteurs internes, des prothèses, des caméras infrarouges. Ça, on parle d'une augmentation des capacités, c'est l'homme augmenté. Le problème de l'homme augmenté, et vous et moi en sommes, puisque nous avons des lunettes,
et
n'est-ce
oui.
pas
et oui, donc nous sommes augmentés. Nous sommes des hommes et des femmes augmentés.
Un début d'augmentation. Le problème, c'est qu'à chaque génération, il va falloir réaugmenter. Donc, le bébé naissant ne va pas naître avec des lunettes, donc il va falloir lui remettre les capteurs, etc. Donc, d'un point de vue génétique, d'un point de vue évolutif de l'espèce humaine, c'est très peu intéressant. C'est très intéressant au niveau personnel, au niveau narcissique, au niveau du patient, c'est très peu intéressant au niveau de la population. Ce qui est intéressant au niveau de la population, c'est évidemment l'homme modifié.
Alors, l'homme modifié génétiquement, c'est pas un OGM, mais pas loin.
Voilà, c'est un OGM. Mm-hmm. C'est un objet génétiquement modifié. C'est un homme génétiquement modifié. Alors, quand je dis que c'est intéressant, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut en faire. Je suis en train de vous dire qu'il est intéressant d'en parler, de voir ce qui est possible, de voir ce qui, peut-être dans un siècle, sera possible, ne sera pas possible. L'homme modifié, c'est un homme qui passerait vraiment une transition génétique et qui ferait transiter l'homme, évoluer l'homme vers un état de transcendance, d'abord vers un trans-humain. humanisme, le but étant d'atteindre un post-humanisme, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir sur quels sont les défis qui vont se présenter lorsque l'on parle d'aller sur Mars, qui va y aller sur Mars, lorsque l'on parle d'une raréfaction des conditions de vie sur Terre, de l'oxygène, etc. Comment va-t-on lutter avec ça? Est-ce qu'il serait raisonnable de penser améliorer les systèmes de transport sanguin, etc., pour répondre à ces défis environnementaux? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le faire.
Vous êtes en train de dire qu'il faut se poser toutes ces questions-là parce qu'on a aujourd'hui les outils qui se développent.
C'est des questions qu'il faut se poser. Et surtout, la question essentielle, c'est est-ce que théoriquement, c'est possible? Est-ce que théoriquement, il est possible d'emmener l'homme à moitié, de faire une petite modification, ou bien est-ce qu'il faut avoir une approche qui est radicalement différente et de dire, les gars, on n'y arrivera pas comme ça, ce qu'il faut faire, c'est un ménage complet, il faut évidemment comprendre de A à Z d'où on sort, et une fois qu'on aura compris d'où on sort, serait-il possible de trouver une autre porte de sortie ? Peut-être une solution à notre programme qui se cache quelque part, qu'on n'a peut-être pas encore totalement exploré.
Donc pour ça, il faut explorer la connaissance, il faut aussi une bonne dose de sagesse.
Voilà, hein, et puis surtout, alors il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de comités ad hoc, etc. Bon, ça, on n'est pas il y a ce qu'il faut généralement. Mais surtout, il faudra développer une technologie qui sera une technologie essentielle, qui est la biologie synthétique, pour fabriquer des chromosomes qui soient des chromosomes fonctionnels. Aujourd'hui, on sait le faire avec un chromosome de bactérie, presque. Hein. Alors, un chromosome de bactérie, c'est tout petit. Et la question, c'est est-ce que dans 20-30 ans, on pourra, comme certains le disent, on pourra synthétiser dans une machine un chromosome humain. Et ça, c'est une autre paire de manches, et c'est une des questions fondamentales du transhumanisme de l'homme modifié.
C'est votre souhait en tant que chercheur?
Écoutez, non, je n'ai pas de souhait de ce genre. Mon souhait, c'est d'avoir du plaisir dans la curiosité, d'essayer d'acquérir des connaissances qu'il y a encore 30 ans, mais personne ne pouvait même y penser, y rêver. Et je pense que le souhait des scientifiques, c'est ça, c'est un plaisir de la connaissance. Le souhait des médecins est un peu différent, qui est évidemment peut-être plus important du point de vue sociétal, hein, c'est le souhait de soigner des gens, mais ce sont deux choses qui sont quand même intimement liées, parce que c'est grâce à la connaissance qu'on soignera des gens.
Merci infiniment, Denis Dubout, d'être venu en direct éclairer nos interrogations et vos recherches. Je rappelle bien sûr que votre leçon inaugurale et tous vos cours sont accessibles à tous sur le site du Collège de France, le lien est sur notre page, et vous revenez quand vous voulez.
Merci à vous.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI. Demain, vous retrouverez Anne-Cécile Bras et Francis Porcheron à ce micro pour C'est pas du vent. Quant à nous, avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, nous vous disons merci pour votre curiosité. Rendez-vous lundi.